Géopolitique.
Chantal Laureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. C'est un feuilleton à rebondissements qui nous tient en haleine depuis des semaines, le bras de fer entre Madrid et Barcelone, entre le pouvoir central espagnol et la Catalogne. La région autonome est désormais sous tutelle pour avoir déclaré unilatéralement son indépendance le 27 octobre. Les dirigeants séparatistes destitués vont devoir répondre de sédition et de rébellion. Ils encourent jusqu'à 30 ans de prison. Une crise embarrassante dans une Europe déjà affaiblie. Alors existe-t-il un risque d'effet domino de l'Écosse à la Flandre belge en passant par la Lombardie et la Vénétie italienne? On va en débattre avec nos invités. Jacques Rupnik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po. Mathieu Petithomme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Franche-Comté, spécialiste de l'Espagne et des problèmes d'intégration européenne. Et en duplex de France Bleu Lorraine Sud à Nancy, Frédéric Allemand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Université du Luxembourg et enseignant à Sciences Po Paris. Mathieu Petithomme, ma première question va être pour vous. Est-ce que vous aviez senti venir cette crise catalane, ou est-ce que cette crise et son ampleur vous ont pris au dépourvu ?
Alors, dans le contexte actuel, là, on est vraiment au paroxysme de la crise, hein, de ce que dit Michel Daubry, une crise politique forte avec des positions radicalisées d'un côté ou de l'autre. Mais cette crise, elle n'est pas nouvelle. Elle date, en fait, historiquement, du statut d'autonomie de 2005 qui a été adopté, dont certaines dispositions ont été remises en cause par la suite par le tribunal constitutionnel de Madrid en 2010. Et on a à la fois des facteurs donc liés à ce statut d'autonomie, pour avoir plus d'autonomie fiscale notamment, hein, les Catalogues veulent un statut d'autonomie similaire à peu près à ce qui se fait au Pays Basque. Et puis on a eu la crise économique en Espagne, très forte depuis 2008, qui a remis en cause un petit peu les mécanismes de solidarité entre les territoires et amène à, d'une certaine manière, un nouvel égoïsme fiscal où on a un mouvement nationaliste qui existe historiquement, mais qui est minoritaire en Catalogne historiquement, et qui, d'une certaine manière, s'est radicalisé. Et où on retrouve aujourd'hui à la fois des gens proches de l'extrême gauche défendant des arguments d'émancipation sociale, et d'autre part des gens qui, à l'inverse, sont plutôt libéraux et qui défendent un argument libéral classique, un petit peu égoïste, un nouvel égoïsme fiscal. L'Espagne nous vole, nous ne voulons plus payer pour les autres territoires. Et c'est pour cela que l'indépendantisme est un mouvement assez puissant, transversal, et que dans la dernière décennie, on est passé à un phénomène très minoritaire, 15% seulement des Catalans soutenaient l'indépendance, à peu près 40% aujourd'hui, même si, il faut encore le dire, la société catalane reste très divisée. Mais en effet, on a un mouvement qui a progressé au cours de la dernière décennie.
Frédéric Allemand, le fait qu'en 2017, dans un pays européen, des dirigeants politiques, des élus, se retrouvent poursuivis pour sédition, incarcérés ou visés par un mandat d'arrêt européen, comme le sont le président catalan déchu Carles Puigdemont et ses quatre anciens ministres qui sont exilés en Belgique, qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que c'est logique au regard du droit, ou est-ce que c'est un abus d'autorité ?
Alors, il faut bien considérer le fait sur ce terrain-là qu'il y a un ordre juridique applicable en Espagne et le gouvernement central de Madrid l'applique de façon relativement respectueuse. Il avait la possibilité d'exercer ou non les pouvoirs qui sont les siens et en toute autorité, il a décidé de les exercer. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'après, du côté de l'Union européenne, puisqu'on pourrait se poser la question quel est le regard que l'Union européenne pourra porter sur ce sujet-là, nous sommes dans des mesures d'ordre intérieur et l'Union européenne, pour l'instant, reste relativement à distance.
Voilà, pour l'Europe, c'est une affaire interne à l'Espagne.
Tout à fait, oui.
Jacques Rupnik, qu'est-ce que Madrid avait à perdre en laissant les dirigeants catalans organiser ce référendum, même s'il n'était pas prévu dans la constitution espagnole, d'autant que le oui, à ce moment-là, n'était pas forcément majoritaire? Ils n'ont pas pris en compte ce facteur.
Perdre la confiance dans la constitution espagnole, si vous acceptez qu'une partie du territoire organise un référendum par des moyens qui sont contraires à ce que dit la Constitution, vous avez là un problème majeur. Vous pouvez bien sûr ensuite débattre sur la meilleure façon de permettre à une expression démocratique de s'organiser. Mais imaginons, que la région Île-de-France décide, pour toutes sortes de raisons, qu'elle veut un référendum d'autonomie ou de séparation. Je suis pas sûr que les autorités françaises y accèdent aussi facilement. Donc, oui, Madrid avait à perdre. Je ne dis pas que, pour autant, Madrid ait bien géré dégrader la situation. La riposte musclée à l'organisation du référendum a d'une certaine façon servi la cause indépendantiste. On aime toujours en Catalogne se mettre dans la posture de la victime de Madrid, et on brandit le drapeau de la démocratie. Donc, soudain, on a fait ressurgir, et en particulier auprès de la gauche européenne, la Catalogne d'aujourd'hui, 1937, hommage à la Catalogne, on se bat pour la démocratie, Madrid réprime. Et alors là, c'est exactement ce que les indépendantistes voulaient, à la fois souder le camp indépendantiste, présenter Madrid comme un pouvoir répressif autoritaire et essayer de se rallier au nom d'une mémoire historique, la guerre d'Espagne, dans un contexte qui n'a rien à voir, bien entendu, avec celui de 1937, de nous rejouer la bataille de Barcelone, la bataille de la Catalogne, voilà.
Mathieu Petithomme, vous êtes d'accord? Mariano Rajoy a perdu un peu la bataille de l'opinion en choisissant d'envoyer les policiers espagnols le jour du référendum pour confisquer les urnes, pour essayer d'empêcher les gens d'aller voter.
Alors au départ, oui, il a perdu la bataille de l'opinion parce qu'il a agi tard et mal. Mais il est en train d'essayer de reprendre la main. Alors quand je dis qu'il a agi tard et mal, parce qu'en effet, cette question n'est pas nouvelle. C'est depuis 2012 réellement qu'on a les grandes mobilisations indépendantistes massives en Catalogne. Tous les ans, on a ces mobilisations massives. Et pendant toutes ces années, Mariano Rajoy n'a pas réellement fait de politique. Pourquoi ? Parce que sa position, c'est celle d'un parti conservateur qui est de ne pas véritablement modifier la structure de l'État des autonomies, en fait, de défendre le statu quo. Le problème, c'est qu'en fait, on a une double impasse. Les indépendantistes, d'une part, ne peuvent pas imposer à Madrid une indépendance unilatérale. Et d'autre part, Madrid ne peut pas ou difficilement imposer à la Catalogne un statu quo parce que la majorité sociale en Catalogne n'est ni dans l'indépendance, ni dans le statu quo, et pour ce que défendent les Catalans de façon classique, historique, c'est-à-dire une sorte de pacte entre l'État central et la région. C'est pourquoi, en fait, les indépendantistes ne veulent pas tous l'indépendance en elle-même, mais il y a aussi une stratégie politique derrière pour défendre mieux des intérêts, avoir une fiscalité plus forte, pourquoi pas un référendum pacté avec l'État central sur le modèle de l'Écosse, ou plus simplement, faire progresser leurs compétences, réformer l'État central vers un État fédéral, voire même un État confédéral. On pourra en parler en faisant un lien, par exemple, avec la Belgique. Mais il est en train de reprendre la main parce que, il refait de la politique en convoquant des élections régionales anticipées et en disant, de toute façon, il va falloir trancher cette question politiquement. Et on voit bien que les indépendantistes, d'une certaine manière, sont aussi pragmatiques, puisqu'ils vont y participer, ils vont essayer de, défendre leurs idées dans les urnes. Donc, eux, leur stratégie, c'est une stratégie à la fois d'utiliser tout ce que leur donne l'État de droit pour avoir une expression démocratique de l'indépendantisme, mais en même temps d'avoir une posture un petit peu anticonventionnelle, et où là, Madrid a toute la légitimité pour, en utilisant la Constitution, la police, les forces de sécurité, défendre aussi l'unité de l'Espagne, parce que la Constitution ne permet pas d'organiser un référendum séparatiste.
Jacques Rupnik, si on revient en arrière dans l'histoire, les Catalans se considèrent comme un peuple depuis quand exactement ?
Si vous leur demandez aujourd'hui, alors ça remonte très très loin, et ça remonte de toujours plus loin. Donc maintenant, ils essayent de nous présenter une version de l'histoire qui suppose une existence ancienne de la nation catalane, toujours opprimée par l'Espagne. La réécriture de l'histoire fait partie de toutes les constructions d'État-nation qu'on a vues en Europe. C'était le grand thème du 19e siècle. Je vois en Catalogne beaucoup de ressemblances avec l'Europe de l'Est, un nationalisme qui s'invente une histoire ancienne et qui se met dans la position de victime opprimée, qui met l'accent sur la langue et la culture qui seraient menacées par cet État auquel on appartient, et donc ce nationalisme culturel, linguistique, qui s'affirme dans un contexte nouveau, qui est celui de l'Europe et de l'intégration européenne. Et les Catalans se veulent très européens, mais qui invoquent l'Europe pour sortir de l'Espagne, en quelque sorte. Et il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont le facteur européen a joué au fil des années, parce que l'accent mis sur l'Europe des régions, qui était un des grands thèmes de la construction européenne. On ne distribue pas les fonds européens aux États, mais c'est aux régions. Et donc vous avez l'idée de l'Europe des régions, l'affaiblissement des États-nations par l'Europe, par les régions, par en bas, et par le haut, par l'Europe. Et je crois que cette conjonction a favorisé au fil des années l'émergence de quelque chose qui est aujourd'hui très puissant et politiquement en Catalogne. Donc le mélange de ce nationalisme culturel, linguistique, et un pays prospère, la bourgeoisie catalane, Puigdemont, c'est un parti de droite conservateur. Et c'est pour ça que je ne crois pas que l'indépendance aura lieu. Parce que son parti, c'est pas un parti qui a envie de prendre des risques comme ça. Les gens qui soutiennent la base sociale de ce parti, c'est la bourgeoisie catalane. Ils ont vu 3000 entreprises quitter la Catalogne.
Oui, transférer leur siège social en dehors de la Catalogne.
Ils se disent, qu'est-ce qui va se passer si on sort de l'euro? Faudra redemander l'adhésion à l'Union européenne. Tout ça est extrêmement dangereux. Donc je suis étonné que Puigdemont se soit embarqué dans cette histoire. Et mon explication, c'est qu'il a en tête depuis très longtemps le modèle slovène et croate de la sortie de la Yougoslavie. Puigdemont est allé en 91 en Slovénie. Il a vu à peu près le modèle. C'est quoi? Vous organisez un référendum. Puis, quelques mois plus tard, vous déclarez l'indépendance. Il y avait une intervention de l'armée yougoslave qui a duré à peu près une semaine, 10 jours en Slovénie. Puis, médiation européenne, arrive à l'époque Jacques Paus et sa mémorable phrase « C'est le moment de l'Europe » qui a été, disons, la parole d'humour noir involontaire, jamais professée, pas seulement dans les Balkans, mais en Europe, n'est-ce pas? Parce que c'était pas le moment de l'Europe, c'était le moment de la désagrégation et de l'impuissance de l'Europe. L'Europe a néanmoins négocié un moratoire de 3 mois. Au bout de 3 mois, la Slovénie et la Croatie déclaraient leur indépendance. Ça, c'est ce qu'a en tête Puigdemont. Référendum, déclaration d'indépendance, Madrid fait quelques faux pas, puis l'Europe devra à un moment donné s'interposer comme médiateur. Ça, c'est le schéma qu'il a en tête. C'est un schéma extrêmement risqué parce que l'Europe ne veut pas jouer ce jeu-là.
Frédéric Allemand, est-ce qu'on peut faire remonter à 2010 l'origine de la crise actuelle entre Barcelone et Madrid, quand le parti conservateur de Mariano Rajoy a saisi la Cour constitutionnelle pour faire supprimer du nouveau statut d'autonomie de la Catalogne, voté par le Parlement sous l'impulsion des socialistes, le terme de « nation ». Est-ce que tout remonte à cet épisode vécu comme une humiliation par les Catalans ?
Il est certain que le moment de 2010 a été relativement important pour cristalliser encore plus les oppositions entre le pouvoir central de Madrid et le pouvoir de Barcelone, le pouvoir local de Barcelone. Et depuis 2010, finalement, on a une situation qui a été laissée en l'état, qui a pourri, et Madrid n'a pas fait véritablement d'effort pour écouter les demandes qui pouvaient émaner de Barcelone, notamment sur le plan fiscal et sur la protection de l'état-providence de la communauté de Catalogne. Et à ce niveau-là, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur les éléments qui tendaient à montrer qu'il y aurait une pression politique pour l'avenir sur la demande de dépendance, il me semble que le moment important sont les élections aussi de septembre 2015. Il faut bien se souvenir qu'à ce moment-là, on va avoir un éclatement de la coalition entre le parti de l'ancien président Artur Mas, qui est aussi le parti de Puigdemont, avec leurs alliés traditionnels depuis 1978, qui était le parti de la CDC. Et pourquoi il y a eu cet éclatement? C'est que, d'une certaine façon, Artur Mas, qui était fragilisé pour toute une série de problèmes, notamment de corruption, a voulu mettre en avant la question aussi de l'indépendance et faire de ces élections de 2015 un processus d'engagement de l'indépendance. Et là-dessus, la CDC a dit qu'elle voulait continuer à s'inscrire dans l'ordre légal et d'être en dialogue avec le gouvernement central. Donc ça n'a pas marché. Et Artur Mas, qui a été relativement fragilisé sur le plan politique, s'est rapproché du centre-gauche représenté par l'ERC pour mettre en place un programme de gouvernement de coalition pour gagner les élections. Ce qu'ils ont gagné, mais de façon relativement limitée. Et ils ont eu le besoin de s'associer à un parti d'extrême-gauche pour pouvoir obtenir la majorité au sein du Parlement catalan. Et donc on a eu un résultat relativement curieux, mais qui était constatable par tous. Et la situation actuelle, on l'avait devant nous, on pouvait l'anticiper, peut-être pas dans l'ampleur qu'elle a pris, mais en tout cas on avait clairement un courant en faveur de l'indépendance, de l'organisation d'une indépendance qui était puissante dès l'automne 2015 et renforcée avec le programme de gouvernement qui a été élaboré en janvier 2016.
Alors Mathieu Petithomme, pourquoi est-ce que Mariano Rajoy n'a pas cherché à éteindre l'incendie ?
Alors lui, sa stratégie, en fait, c'est justement de laisser les autres faire et de les pousser à la faute. C'est pas du tout quelqu'un de charismatique. Et donc, il prend le temps de laisser voir qu'est-ce qui va se passer. Et d'une certaine manière, là, il a bien agi dans la dernière séquence, contrairement à ce qu'il avait fait auparavant, puisque, en effet, il a poussé les indépendantistes à la faute. Les indépendantistes, comme l'a dit Jacques Rupnik, pensaient que, à travers le processus de déclaration unilatérale de l'indépendance, symbolique, il y allait avoir une répression très forte, il y allait avoir la police nationale, nationale qui allait arriver en Catalogne, et ça allait donner d'autres images leur permettant de dire que ce sont des martyrs, etc., etc. Or, ce n'a pas eu lieu, et donc maintenant, on voit vraiment l'impasse. Hein, et de fait, les sondages d'opinion montrent qu'il y a un déclin quand même assez prononcé au sein même du bloc indépendantiste, parce que les gens se disent, au final, c'est une indépendance de papier. Donc, il y a des responsabilités, à mon sens, de part et d'autre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans une Espagne post-crise, on a une société à la fois espagnole comme catalane qui est très fragmentée, en fait. Et on a des gens qui continuent à penser en termes de majorité absolue, où on peut imposer une position aux autres. Or, ce n'est pas le cas. Tant Mariano Rajoy, on n'en a pas parlé, mais lui, il a un gouvernement divisé. Pour une première fois depuis de nombreuses années, il n'a plus de majorité absolue. Il doit s'appuyer sur un parti libéral Ciudadanos et sur d'autres partis, notamment la coalition Canari. Bref, il a une majorité assez faible. Et en Catalogne, c'est la même chose. On a un parlement catalan avec 7 partis politiques très très fragmentés. Et lors des élections qui vont avoir lieu maintenant en décembre, on retrouvera de toute façon cette fragmentation avec un rééquilibrage. Certainement, le parti de Puigdemont va, comme sa stratégie est dans l'impasse, très certainement, il va payer un petit peu le prix de cela. Et au contraire, on aura très certainement la gauche catalane, l'ERC, qui est plus indépendantiste historiquement d'une certaine manière, qui pourra tirer ces bénéfices-là. Et puis un autre parti comme Catalunya en Comú, qui est proche de Podemos, qui est un parti qui ne défend pas l'indépendance en elle-même, mais défense qu'ils appellent dans le novlangue nationaliste, le droit à décider, l'idée qu'on pourra avoir un référendum pacté avec l'État central sur le modèle de l'Écosse. Mais si vous voulez, dans tous les cas, à mon sens, il n'y aura pas de majorité, que ce soit non nationaliste, que ce soit indépendantiste. Il faudra faire des pactes politiques, il faudra négocier. Et le problème, c'est que l'indépendantisme, justement, prospère sur l'absence de politique, sur l'absence d'ouverture, en disant, voilà, on va vers une réforme de l'État fédéral, on va vers une négociation. Comme, par ailleurs, il faut relativiser, ça a toujours été le cas en Espagne depuis la transition démocratique. La gauche, le Parti populaire, s'est allié avec les nationalistes catalans à plusieurs reprises. Hein, José María Aznar l'a fait. De même, le Parti socialiste espagnol au début des années 90 l'a fait. Donc, si vous voulez, c'est possible. Le problème, c'est que là, on a des acteurs qui, pour un certain nombre de facteurs qu'on a évoqués, sont dans des stratégies d'évitement du blâme et reposent la faute sur les autres. Et d'une certaine manière, le bloc central, qui est en fait favorable à une négociation d'une manière ou d'une autre, eh bien, disparaît un petit peu.
Jacques Rupnik, quelle que soit l'issue des élections du 21 décembre, il faudra trouver une solution politique. Mm-hmm. Est-ce qu'elle serait du côté d'une réforme de la Constitution, comme le propose le Parti socialiste et la maire de Barcelone aussi, mm-hmm. Ada Colau, de réformer la Constitution et de trouver un nouveau statut pour la Catalogne?
Oui, absolument. Je crois que tout ce qui a été dit, là, je le partage absolument. Il y a des occasions manquées. Rajoy a laissé la situation s'enliser. Vous savez, les référendums, il faut se méfier. On a parfois des résultats surprenants. Voir le référendum sur l'Europe en France en 2005, voir le Brexit, etc. Donc, il faut rester prudent. On peut aller vers des surprises, mais admettons que les indépendantistes perdent le référendum, il faudra tout de suite que le gouvernement engage une négociation, justement, sur la réforme de la Constitution. Ce qui est original dans le cas espagnol, c'est que la Constitution, elle a été élaborée avec le concours des Catalans. Parmi les, je crois, les 7 juges constitutionnels, il y en avait 2 qui étaient catalans. La Catalogne était partie prenante donc au processus d'élaboration de la Constitution. La Constitution espagnole est assez originale parce qu'elle accorde des degrés d'autonomie différenciés aux différentes régions. Par exemple, le pays basque a une autonomie un peu plus poussée que la Catalogne, etc. Donc, il y a là la possibilité de reformuler, donc amender cette Constitution dans un sens plus fédéral, parce que on peut aller vers une souveraineté catalane plus grande, une souveraineté, mais qui ne passe pas par le séparatisme étatique, qu'on puisse l'encadrer dans un cadre fédéral. Donc, on irait vers une fédération au sein de l'Espagne. Je pense que c'est difficile à avaler pour le parti au pouvoir aujourd'hui, mais ce parti n'est pas le seul acteur, il n'est pas éternel non plus, et il va faire rentrer la politique et la négociation constitutionnelle pour sortir de la crise.
Frédéric Allemand, Mathieu Petithomme et Jacques Rupnik, on va marquer une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à discuter de la Catalogne et du réveil des nationalistes en Europe.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans la seconde partie de Géopolitique. L'Europe à l'épreuve de la Catalogne. Y a-t-il un risque d'effet domino? Pourquoi cette montée des nationalismes en Europe? On en débat avec trois chercheurs spécialistes de ces questions. Jacques Rupnik, Frédéric Allemand et Mathieu Petithomme. Jacques Rupnik, est-ce que pour vous la montée de l'indépendantisme catalan s'inscrit dans la droite ligne de la victoire de Donald Trump aux États-Unis par exemple, ou du Brexit? En bref, d'un certain populisme.
Alors, il y a effectivement le phénomène populiste, l'idée qu'on remet en cause le pouvoir en place et on essaye d'unifier le peuple catalan, en l'occurrence, sur une plateforme très vague et très incertaine. Mais dans l'opposition, ce qui compte, c'est de trouver le bon adversaire, en quelque sorte. Et là, c'est Madrid. Il y a des similitudes de ce type-là. On parle du peuple, on invoque constamment le peuple. Et le peuple est la nation. Voilà, on glisse du peuple, au sens démocratique, qui s'exprime dans les urnes, mais à la nation. C'est la nation catalane. Et on défend donc une identité. Donc il y a souveraineté et identité. Et vous jouez sur les deux registres. Il faut la souveraineté du peuple pour que l'identité nationale catalane soit préservée. Le débat sur la souveraineté, il est légitime, c'est le fond même de la politique. Mais le glissement de la souveraineté à l'identité, ça c'est une des caractéristiques du populisme, qu'on a retrouvé dans différentes autres circonstances en Europe. Moi je le vois en Europe de l'Est beaucoup. Nous sommes au pouvoir pour préserver la souveraineté de la nation, mais nous sommes là aussi pour préserver l'identité de notre nation face aux menaces diverses. Ça peut être face à l'Europe, mais pas au sens Bruxelles seulement, face à l'Europe qui symbolise l'ouverture. Et dans la vague migratoire, bien entendu, ça a été un catalyseur important du réveil du discours identitaire en Europe de l'Est particulièrement, mais pas seulement. Regardez les élections autrichiennes, la présidence l'année dernière, ça s'est joué à 2%. Un candidat d'extrême droite qui était principalement focalisé sur la question migratoire. Donc la question migratoire a remis en selle les partis populistes autour de la question identitaire. Donc là, il y a des parallèles. La Catalogne est quand même diverse parce que à la fois c'est un pays qui se voulait très ouvert. C'était pas le populisme hostile à l'Europe, comme ailleurs. C'était pas non plus le populisme hostile aux migrants. Il y avait une particularité. Ils voulaient pas les migrants d'Amérique latine. Parce que ça affaiblissait leur protectionnisme linguistique. Alors, ils préféraient les migrants d'Afrique du Nord, par exemple. Et on a eu ce débat à la suite des attentats de Barcelone au début de l'été. Et on a découvert qu'effectivement, il y avait une stratégie, une politique délibérée favorisant la migration d'Afrique du Nord, parce qu'on préférait cette migration-là, parce qu'elle devrait s'adapter donc au contexte catalan avec la langue catalane. Ils ne parlaient pas l'espagnol et ça, c'était considéré comme un élément positif. Donc là, on a un pays qui se voit à la fois ouvert économiquement et politiquement, mais qui, dans la phase actuelle, joue sur le réflexe identitaire et ce binôme souveraineté-identité dont j'ai parlé.
Mathieu Petithomme, est-ce que l'Europe redoute un effet domino suite à la crise catalane?
Bien sûr, parce que la position des États européens, évidemment, c'est de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale des États. Et donc, en effet, l'Europe ne va jamais défendre le séparatisme. Et les États existants aujourd'hui vont avoir une position à cet égard assez conservatrice. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a à la fois des facteurs propres à chacun de ces nationalismes. C'est-à-dire qu'à mon sens, il faut trouver les logiques explicatives en Écosse par rapport à l'attitude du nationalisme écossais, en Catalogne par rapport au nationalisme catalan, etc. Mais il y a aussi des points communs. Par exemple, très rapidement, le retour des identités. Je pense qu'on est dans une phase où on a eu au début des années 2000, même dans les années 90-2000, le développement d'un certain cosmopolitisme. Une idée, par exemple, qui se traduit bien par l'idée européenne, qu'on a des identités transnationales au-delà de l'État-nation. Or, on voit bien que toutes ces idées défendues par Jürgen Habermas, par exemple, ou d'autres, ne parlent pas à beaucoup de citoyens, notamment les classes populaires, qui ne parlent pas forcément de langue étrangère, qui vivent dans un territoire donné, et pour qui la nation reste, si vous voulez, le référentiel principal. L'identité européenne, ça reste quelque chose entre de la science politique et de la science-fiction, ça reste assez abstrait. Donc il y a ce premier élément-là. Deuxièmement, en effet, il y a, à mon sens, le facteur fiscal, le nouvel d'égoïsme fiscal. On voit que beaucoup de régions, en Lombardie, Vénétie, on voit en Catalogne aussi.
Voilà, l'Italie du Nord, on ne veut plus payer pour l'Italie
voilà,
du Sud.
Voilà, on ne veut plus payer pour les autres. L'Espagne nous vole, etc. Et là, c'est tout à fait intéressant si on s'y focalise. Ou en Flandre aussi, on a la même chose. Hein. Et en fait, ça montre la contradiction du discours libéral. Ça, c'est intéressant de le dire d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que le libéralisme économique défend cela d'une certaine manière. Le chacun pour soi, la remise en cause de l'État-providence, le déclin des solidarités. Mais quand on a des acteurs dans un État central qui défendent ce type d'argument à droite de l'échiquier politique, là, on le voit comme tout à fait légitime. Par contre, quand c'est d'autres acteurs, comme l'a dit très bien Jacques Rupnik, le parti PD4 en Catalogne est un parti libéral, la bourgeoisie catalane, lorsque ce sont eux qui reprennent ce type d'argument en disant « on ne veut plus payer pour le reste de l'Espagne, on ne veut plus tant de solidarité, etc. », là, on le taxe tout de suite d'arguments qui ne sont moins légitimes. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a cette composante à la fois identitaire. Il y a aussi une compétence libérale, un certain égoïsme. Et puis, il y a aussi évidemment la crise des autres projets, notamment le projet européen, par exemple, aujourd'hui.
Frédéric Allemand, on parlait de l'Écosse à l'instant, l'Écosse qui fait partie du Royaume-Uni, mais que Londres a autorisé à organiser un référendum sur son indépendance en 2014. Alors le non l'a emporté à 55%. Quelles vont être les conséquences du Brexit, selon vous, sur le mouvement indépendantiste en Écosse ?
C'est vrai qu'on peut la mettre d'une certaine façon en parallèle avec la situation en Catalogne, avec quand même un point assez de différence assez sensible, qui est celui que vous avez rappelé, à savoir que l'organisation du référendum en Écosse de septembre 2014 avait fait le fruit d'un accord entre le gouvernement écossais et le gouvernement de Londres. Donc ça, c'est un point important. Il y avait eu le souci de vouloir inscrire la réflexion sur l'indépendance et l'organisation de l'indépendance dans un processus légalement accepté par l'ensemble des partis. Alors, ceci étant dit, pour la suite, il y a de fortes interrogations sur le positionnement qui sera celui de l'Écosse à l'issue du Brexit, puisque dans tous les cas, il était clair au résultat du référendum relatif au Brexit qu'une grande majorité des Écossais étaient favorables pour rester au sein de l'espace de l'Union européenne et que ceux-ci seraient particulièrement tentés pour se désolidariser et organiser leur propre indépendance à l'issue du Brexit, avec la perspective de se réintroduire dans l'espace de l'Union européenne. Voilà, pour l'instant, on en est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer, à savoir la condition de la séparation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il est certain que le positionnement de l'Écosse sera relativement distinct.
J'aimerais maintenant qu'on revienne à l'exemple de la Belgique, où ont trouvé refuge le président catalan déchu, Carles Puigdemont, et ses quatre anciens conseillers. Charles Michel, le premier ministre fédéral francophone, a été le seul dirigeant européen à condamner les violences policières lors du référendum du 1er octobre en Catalogne, ce qui a provoqué la colère de Madrid. Jacques Rupnik, est-ce que Charles Michel, selon vous, a voulu ménager ses alliés nationalistes flamands du NVA, qui sont des sympathisants assumés de la cause catalane, parce que la menace d'une scission de la Belgique plane toujours.
Oui, certainement que le Premier ministre belge essaye de, disons, colmater les brèches dans la coalition qui est au pouvoir. Et c'est lui le plus modéré. Vous dites, il a condamné les violences, mais sur le fond, il n'a pas voulu aller plus loin. Alors que si vous voyez ce qui se passe en Belgique, enfin les déclarations des dirigeants politiques belges, de ceux qui soutiennent ouvertement le séparatisme catalan, car il y a une frange très radicale, assez importante en Belgique, qui est séparatiste. Il y a ensuite les autonomistes plus modérés, mais qui soutiennent, en gros, Puigdemont et accusent Madrid, etc. Et vous avez à gauche, Elio Di Rupo, l'ancien Premier ministre socialiste, qui compare Rajoy à Franco. Donc, le Premier ministre actuel est l'homme le plus modéré, j'allais dire le plus sage, dans cette situation. C'est pour ça que Puigdemont a choisi la Belgique. C'est le bastion le plus favorable aux Catalans en Europe, c'est la Flandre. Et même là, il y a un soutien verbal, mais on ne va pas au-delà.
Mathieu Petithomme, le NVA prône aujourd'hui le confédéralisme. Mm-hmm. Est-ce que c'est une stratégie pour, de fait, établir un séparatisme ?
Alors oui, en effet, c'est une stratégie vers une indépendance possible qui se négocierait et qui se ferait au fur et à mesure du temps. Et de fait, on retrouve en fait ce type de stratégie dans d'autres nationalismes. D'une certaine manière, en Catalogne, une certaine frange des nationalistes catalans ont aussi ce type de stratégie. L'idée, c'est quoi derrière ? C'est de défendre nos pions, c'est-à-dire de dire nous, nous voulons l'indépendance, mais tout en ayant un indépendantisme qu'on pourrait appeler pragmatique, c'est-à-dire en prenant à chaque fois l'autonomie nouvelle que l'on peut négocier avec l'État central, en ayant une stratégie pas à pas.
Et bien évidemment. Alors là, en l'occurrence, il y aurait un État wallon, un État flamand, et il se partagerait.
Bruxelles. Une des seules choses qui fait que la Belgique tient encore, c'est Bruxelles capitale. Et de fait, dans les arguments des Flamands, il y a évidemment, par exemple, la scission de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, il y a toujours cette question de solidarité. C'est-à-dire, on ne veut pas payer pour les Wallons, on veut avoir nos propres ressources fiscales, prendre nos impôts ici, les redistribuer dans la région. Donc, en effet, tout cela, c'est possible, mais ça pose derrière une vraie question, qui est celle du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'au-delà...
Le confédéralisme que souhaitent les Flamands est très agressif.
Bien sûr, et c'est simplement une réponse institutionnelle à une question politique derrière, qui est, on ne veut plus tant vivre ensemble, on ne veut plus avoir une solidarité si forte avec le reste de la Belgique. Donc, si vous voulez, la question institutionnelle est importante, mais il y a derrière la question politique, quel projet a-t-on pour la Belgique demain ? Veut-on encore vivre ensemble, etc. Et la différence, c'est que ces nationalistes, si vous voulez, ne pensent pas véritablement en termes de vivre ensemble. Au niveau national belge, par exemple, ou en Catalogne, au niveau national Espagne, mais pensent le vivre ensemble dans leur identité propre. Mais évidemment, ça pose un problème. Mais juste pour un dernier point, c'est que pourquoi ils progressent d'une certaine manière ? Parce qu'évidemment, il y a un processus incrémental, mais il y a au-delà de ça un côté émotionnel. C'est-à-dire que la politique, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des enjeux économiques, c'est aussi de l'émotion. Et l'indépendance a cela de fort qu'elle crée une émotion, même si, bien évidemment, on peut questionner réellement est-ce que les Flamands vivraient mieux avec une Flandre séparée du reste de la Belgique. Mais ça, c'est un élément fort qui peut faire justement un lien entre des gens très différents, à la fois à la gauche, et puis d'autres qui vont se rallier à cette idée simplement par égoïsme fiscal, d'une certaine manière, alors que ce sont des gens très libéraux.
Jacques Rupnik, est-ce que la crise catalane a été suivie de près dans les pays de l'ex-Yougoslavie, où certaines minorités ethniques aimeraient bien, par exemple, peut-être changer les frontières, en Serbie, par exemple ?
Oui, parce que, bien entendu, qui dit éclatement de la Yougoslavie, ça renvoie à la fragmentation, la balkanisation, on redécoupe les frontières, et on pensait avoir tourné la page, on est quand même 20 ans après. Or, ce qui se passe en Catalogne fait ressurgir des questions qui étaient, disons, latentes et qui n'étaient pas exprimées. Et donc on voit, par exemple, d'abord des régionalismes. La Voïvodine dit « aujourd'hui la Catalogne, demain c'est à nous ». Voilà, donc la Voïvodine qui est une région au sein de la Serbie, où certains, c'est pas une opinion majoritaire, veulent s'inspirer du cas catalan. Vous avez la Republika Srpska en Bosnie. La Bosnie est divisée en deux grandes parties, la Republika Srpska, la partie serbe, et la partie croato-bosniaque, croato-musulmane. Vous avez maintenant, les Serbes de Bosnie disent, nous aussi on veut le référendum, et nous aussi on voudrait se séparer de la Bosnie, qui est un État failli, cet État n'existera jamais, et dans leur idée, c'est leur attachement à la Serbie qui les intéresse. Fort heureusement, la Serbie, Belgrade, ne bouge pas. Vous avez au Kosovo aussi la question, parce qu'il y a des territoires où il y a des populations serbes, et inversement, vous avez en Serbie du Sud des territoires peuplés d'Albanais. Bref, vous ouvrez la boîte de Pandore.
Pour vous, une nouvelle guerre dans les Balkans est envisageable ou pas ?
Non, je ne le pense pas, parce que je crois que les gens sont épuisés. Les années 90, ça a été très lourd. Et la Yougoslavie, quand même, qui était le premier pays, le pays le mieux positionné pour les transitions après 89, s'est retrouvé le dernier à attendre d'entrer dans l'Union européenne, les États successeurs aujourd'hui. Donc le bilan est quand même globalement négatif, et personne n'a envie de replonger dans la guerre, les populations déplacées, les morts. Il y a eu quand même 100 000 morts en Bosnie, 10 000 morts au Kosovo. Je crois que personne n'a envie de replonger. Mais les contentieux nationalistes peuvent empoisonner la politique et favoriser, au lieu de s'occuper des réformes, de la transition à la démocratie, de préparer l'intégration européenne, vous avez un agenda politique qui est modifié. On s'occupe des frontières, des contentieux d'un autre âge. Donc la crise catalane vous montre que ça peut se passer au sein de l'Union européenne. Prospère, démocratique, intégrée depuis longtemps, eh bien, nous avons ces lignes de fracture apparaissent là-bas, et ça légitime, en quelque sorte, d'une certaine façon, les nationalistes dans les Balkans. Je pense que ça n'ira pas au-delà de certaines limites, mais évidemment, ça montre que le phénomène du nationalisme et des séparatismes en Europe, c'est un phénomène des vases communicants. De même que je disais que Puigdemont s'est inspiré du cas slovène et croate, Aujourd'hui, il y a des gens dans les Balkans qui veulent s'inspirer de Puigdemont et du séparatisme catalan.
Frédéric Allemand, quelle peut être la réponse de l'Europe si elle veut éviter que le régionalisme ne se convertisse en indépendantisme, selon vous ?
Alors, sur le plan institutionnel, il faut bien voir que l'Union européenne, aujourd'hui, a une position qui est particulièrement prudente. Comme je le disais tout à l'heure, il y a le souci de respecter l'organisation constitutionnelle interne de chaque État membre. Ceci étant dit, il est clair qu'une intégration européenne produit des effets sur les courants indépendantistes. Quand on regarde aujourd'hui l'activité des collectivités, des régions, il faut voir qu'à peu près 80% des mesures qui sont adoptées par les parlements régionaux sont des textes d'application de règles de droit de l'Union européenne. Il y a aussi le fait que l'essentiel des fonds qui sont issus de l'Union européenne sont aujourd'hui mis en œuvre de façon décentralisée au niveau local. Et par ailleurs, il y a un autre paramètre qui avait déjà été évoqué par Mathieu Petithomme concernant les obligations financières qui sont celles des États, mais qui se reportent aussi sur les régions. Dans le cas typique de la Catalogne, il faut bien voir que courant 2016, le gouvernement de Madrid, dont les objectifs budgétaires n'étaient pas respectés, s'est tourné vers la Catalogne pour demander à ce qu'elle produise un effort. Il était notamment considéré que la Catalogne avait dépassé les engagements qui avaient été les siens. En gros, elle avait un déficit de ses comptes de 2,7% de son PIB, alors qu'elle avait un objectif prévu de 0,7%. Et évidemment, les Catalans ont peu goûté ces demandes d'austérité additionnelles, mettant en avant que le déficit qui était le leur était aussi le fruit des transferts fiscaux de la Catalogne vers le reste de l'Espagne. Donc tout cela a pesé, tout cela appuie aussi d'une certaine façon les demandes de mise à distance des régions par rapport au pouvoir central et donc la nécessité pour eux peut-être d'envisager d'autres types de relations avec l'État en tant que tel. Après, sur le fond, à nouveau, l'Union européenne est tenue par les compétences qui sont les siennes. Donc sur ce type de dossiers, qui sont vraiment des dossiers de politique intérieure, l'Union européenne est plus en tant qu'observateur pour le moment que vraiment en tant qu'acteur actif. Et il est intéressant de se reporter au débat constitutionnel de 2002-2003. On peut observer qu'il y avait eu le souci d'un certain nombre de collectivités territoriales, de régions, notamment la Catalogne, de demander à ce que la question de l'indépendance et de l'organisation de l'indépendance d'un territoire au sein d'un État membre puisse être envisagée et considérée dans les traités fondateurs, de telle façon à ce que si un territoire devait accéder à l'indépendance, que son adhésion de l'Union européenne soit envisagée. Évidemment, ces demandes avaient été écartées, les pouvoirs des États membres, les pouvoirs centraux, je veux dire, avaient vu le danger sur leur unité, et ces demandes donc avaient été rangées dans les tiroirs. Ceci étant, voilà, il y avait ces demandes, et il y avait ce souci d'un certain nombre de pouvoirs locaux d'internationaliser leurs problématiques internes, espérant trouver un soutien plus ouvert au niveau européen, ce qui n'a pas été le cas.
Jacques Rupnik, j'ai une dernière question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de lutte armée en Catalogne comme il y en a eu au Pays Basque, par exemple ?
Je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de véritable raison. Il n'y avait pas d'organe. Politiquement, je pense que la frange nationaliste, le nationalisme catalan, était un nationalisme des classes moyennes supérieures, d'abord, et leur stratégie était différente. Et ils avaient obtenu quand même un statut d'autonomie considérable, et l'erreur, c'était peut-être de ne pas, en temps utile, mettre à jour, en quelque sorte, ce processus. C'est un processus très risqué, parce que vous avez, on a parlé de fédéralisme, c'est facile à dire, mais vous avez un fédéralisme par association, deux États qui veulent faire ensemble, et vous avez le fédéralisme par dissociation. Lorsque vous commencez à dissocier, vous savez où vous commencez, vous savez pas très bien où vous allez terminer. Alors, c'est un pari risqué, et je crois que c'est le pari auquel est confrontée l'Espagne aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Jacques Rupnik, directeur de recherche aux séries Sciences Po. Vous avez publié Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages aux presses de Sciences Po en 2014. Mathieu Petithomme, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Franche-Comté. Vous avez signé Les nationalistes l'islamisme dans l'Espagne contemporaine, aux éditions Armand Collin. Et Frédéric Allemand, chercheur donc à l'Université du Luxembourg, merci d'avoir été en duplex de Nancy. Et merci à nos confrères de France Bleu Lorraine Sud d'avoir permis cette liaison. Véronique Durand m'a aidé à préparer cette émission. Nathalie Laporte l'a réalisée. Merci à toutes les deux. On se retrouve demain à 19h10, heure de Paris, 18h10, temps universel. Bon.